Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Esbert. Suite de notre série consacrée aux monarchies, après avoir parlé de l'Espagne, puis de la Thaïlande et avant parler demain du Maroc, direction ce matin les pays du Golfe, de l'Arabie aux Émirats, les limites d'une modernisation à marche forcée, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous parlons aujourd'hui d'une vision, et celle-ci est une feuille de route pour nos objectifs, notamment dans les domaines du développement économique au cours de ces 15 prochaines années. Cette vision n'a rien de technique ni d'administratif, mais c'est une vision pour les 15 prochaines années durant lesquelles nous lancerons des programmes de restructuration du fonds d'investissement public, de restructuration de l'Aramco, des transformations nationales mais aussi internationales relatives à nos partenariats stratégiques et d'autres programmes qui permettront de réaliser cette vision. Aujourd'hui, nous vivons dans une société moderne où il est difficile de ne pas être transparent et où il est difficile de cacher un secret. Il est très important de fournir des informations à tout le monde, y compris aux citoyens, au secteur privé et au public, afin qu'ils puissent prendre part au dialogue dans notre patrie.
Depuis 5 ans maintenant, l'Arabie Saoudite est conduite par un jeune prince héritier, Mohamed Ben Salman, qu'on entendait à l'instant, aux ambitions modernisatrices sans limite. En effet, dès son arrivée, MBS, c'est comme ça qu'on le surnomme, a dressé la feuille de route des réformes économiques, sociales et politiques nécessaires au royaume. Son fameux plan Vision 2030, présenté en avril 2016, on entendait là un extrait justement de sa présentation. Diversification et libéralisation de l'économie, développement durable, place des femmes, relations avec les autorités religieuses, autant de domaines dans lesquels le monarque entend rompre, laissant apparaître l'image d'un responsable progressiste et modernisateur. Mais derrière cette image se trouve aussi un homme autoritaire qui n'hésite pas à lancer des guerres sans fin, comme au Yémen, et à neutraliser ceux qui s'opposent à lui, que ce soit Mohamed Ben Nayef, l'ancien héritier déchu par décret et aujourd'hui accusé de complot, ou encore le journaliste Jamal Khashoggi, assassiné à Istanbul, on s'en souvient, en 2018. Tandis que le mythe d'un dirigeant ouvert sur le monde et visionnaire semble lui échapper, les problèmes s'accumulent pour le royaume. Enlisement dans la guerre au Yémen, crise pétrolière, conflit avec le Qatar. MBS a-t-il encore les moyens de ses ambitions? Ne devra-t-il pas revoir ses objectifs à la baisse tant en matière de transformation de l'économie que de leadership régional? Jusqu'où le pays pourra-t-il tenir le train des réformes tout en concentrant toujours plus de pouvoir? Pour le comprendre, il faudra aussi regarder du côté des Émirats Arabes Unis, où Mohamed Ben Zayed, le modèle, voire le mentor de MBS, avec qui il y a parfois des frictions, tient aussi une rupture de réformateur, n'hésitant pas récemment à engager un processus de normalisation avec Israël, tout en instaurant un régime absolutiste. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin, d'abord Fatia Dazieni, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse Moyen-Orient Golfe à l'Institut de Recherche Stratégique à l'École Militaire, l'IRSEM, et à Sciences Po Lille. Mm-hmm. Vous êtes auteur d'un certain nombre d'ouvrages, notamment le dernier en date qui vient d'être réédité, l'Arabie Saoudite en 100 questions, chez Talendier, qui est vraiment un ouvrage très utile pour bien comprendre ce pays. Avec nous également, Sébastien Boussois, bonjour.
Bonjour.
Avec nous depuis Bruxelles, vous êtes chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles. Merci également d'être avec nous. Vous êtes auteur, vous, notamment de Pays du Golfe, les dessous d'une crise mondiale. C'était paru chez Armand Collin. Alors, on va d'abord commencer par l'actualité. Je vais commencer avec vous, Fatia Dazieni. Cette semaine, la justice saoudienne a annulé les peines de mort de 5 accusés impliqués dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul, commuant ces peines à plusieurs années de prison. 5 prévenus ont été condamnés à 20 ans de prison et 3 à des peines allant de 7 à 10 années d'emprisonnement, pour être précis. Ce jugement a été présenté comme définitif. Alors, au-delà du verdict, au-delà du fait aussi qu'au passage, on peut se réjouir que quand même le pays, finalement, n'aille pas au bout de ses peines capitales. Ça reste une bonne nouvelle. Mais il y a eu quand même des condamnations tout azimut, une parodie de justice, a dit la rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une farce a évoqué la fiancée turque du journaliste. Reporters sans frontières a parlé d'un procès qui n'avait pas permis de connaître la vérité et de savoir ce qui s'est passé. Derrière ces critiques, il y a évidemment ce soupçon qui pèse sur Mohamed Ben Salman, que beaucoup voient comme le véritable commanditaire de cette opération. Que vous inspire cette nouvelle décision de justice définitive, dit-on ?
Oui, bah écoutez, elle va aussi dans la lignée de ce qui avait été décidé, à savoir les deux principaux exécutants qui ont été totalement dédouanés, à savoir Saoud Al-Qahtani, qui est l'un des conseillers les plus proches de Mohamed Ben Salman, et Ahmed Al-Asiri, qui ont été tous les deux acquittés pour faute de preuves. Donc, il n'est pas très étonnant, effectivement, que cette peine soit commuée, comme vous dites.
Alors, au-delà des considérations intérieures, quand on regarde un petit peu l'extérieur, Sébastien Boussois, de cette affaire, quand elle a éclaté, ça a été un véritable séisme politique. Hein. On a même pensé que le fait qu'MBS soit écarté était une option, écarté du trône. Finalement, malgré les réprimandes de Donald Trump pendant un temps, malgré les remontrances de l'Union européenne, tout a repris comme avant et MBS n'a pas perdu son crédit politique auprès des Occidentaux, Sébastien Boussois.
Absolument, on est dans une situation assez assez ubuesque et surréaliste qui montre qu'à chaque fois, à chaque politique, à chaque nouvelle action, à chaque polémique qui entache, je dirais, la situation et l'action de Mohamed Ben Salman, il est indirectement renforcé. Et que ce soit l'affaire Khashoggi, où vous l'aviez dit très justement, on allait parler d'un séisme, le roi Salman était peut-être déjà en train de réfléchir s'il n'avait pas commis une erreur. En même temps, Mohamed Ben Salman avait été adoubé à la Maison Blanche en 2016 sur inspiration et fort soutien de son mentor, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mohamed Ben Zayed. Donc la situation a montré un jeune prince héritier fougueux, sans aucune expérience politique, qui se croit encore dans un système de fonctionnement politique très très tribal, comme ça a longtemps été le cas en Arabie Saoudite, et qui n'a apparemment plus ou pas forcément de limites dans sa vision qu'est la véritable politique, mais qu'est également les jeux vidéo dont il est un friand défenseur. Donc par moment la limite est tout à fait ténue, mais personne ne lui en tient rigueur à ce stade-là.
Malheureusement, peut-être même que le système tribal dont vous parlez, il tente à s'en écarter et à s'en libérer d'une certaine manière, mais on y reviendra. Fatih Adesini, vous vouliez réagir, et puis je vais poursuivre un tout petit peu sur ce point-là, et puis ensuite on quittera l'affaire Khashoggi, mais il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que les fils de Jamal Khashoggi ont tous dit qu'ils pardonnaient les tueurs, ce qui paraît assez étonnant. Comment expliquer cet incroyable miracle du pardon?
Écoutez, il y a une partie de la famille Khashoggi qui est toujours en Arabie, c'est un peu compliqué de faire autrement. Et ils se rendent bien compte que se fâcher définitivement avec ce pouvoir est extrêmement complexe pour eux.
Les révélations du Washington Post qui dit que les fils auraient tous touché des maisons de plusieurs millions de dollars et que chaque mois, ils auraient des indemnités des autorités, ça vous paraît plausible quand on voit les méthodes de règlement des conflits à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, ça vous paraît une option ?
Oh, bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on a vu pour le prince Moukrine, qui était le successeur supposé après le roi, le prince héritier après, vice-prince héritier qui avait été nommé par le roi Abdallah, et il a été dédommagé grassement pour y avoir renoncé. Donc c'est une pratique assez courante. Mais je voudrais revenir sur l'affaire Khashoggi sur le plan interne. Alors c'est vrai que l'affaire Khashoggi fait du royaume et surtout de son prince hérité une sorte de paria. Et ça a été très mal vécu au sein du royaume, parce que le prince héritier joue sur la rhétorique ultranationaliste aujourd'hui. Hein. Il a totalement mis de côté le narratif centré sur le religieux. Aujourd'hui, c'est comment prouver aimer la nation saoudienne qui est à construire, justement, et qui est le grand rêve de Mohamed Ben Salman à travers sa vision 2030. Donc, il a tout un projet, effectivement, de construire une nation avec un sentiment nationaliste très fort, que ce soit par rapport à sa politique régionale ou à sa nouvelle politique économique, où il veut faire du royaume une nation très solide économiquement et une référence au Moyen-Orient. Donc tout cela fait que cette propagande marche quand même à un certain attrait, pour notamment auprès des jeunes. Et c'est vrai que beaucoup ont, même s'ils ont été sidérés par l'assassinat de Khashoggi, c'est clair, ils ont eu tendance à penser qu'on voulait empêcher ce prince héritier, justement, qui a été le seul à oser vraiment avoir un programme de réforme très très ambitieux, et donc rendre un petit peu fiers les Saoudiens d'un pays qui justement a toujours été caricaturé comme médiéval, ultra conservateur, ce qu'il est, hein. Donc cette ambition, si vous voulez, a un peu galvanisé ce sentiment, et donc beaucoup ont par défaut protégé et défendu finalement le prince, malgré bien sûr cet impair qui pèse très très lourd pour la réputation du pays.
En particulier chez les jeunes générations. Oui. Sébastien Boussois, on parlait tout à l'heure des États-Unis. Vous disiez MBS finalement peut à peu près tout faire. Il a toujours le soutien de Washington. Jusqu'où il va l'avoir ? Parce qu'il y a l'affaire Khashoggi, mais il y en a d'autres. Il y a quelques semaines, il y a un ancien espion saoudien qui est exilé au Canada, qui s'appelle Saad Al-Jabri, qui a engagé une action en justice devant la justice américaine, dont on connaît pour le coup sa capacité à ne pas lâcher les grosses affaires, dont on connaît l'indépendance. Et là, c'est à peu près la même histoire, c'est-à-dire que cet ancien espion saoudien, il accuse le prince héritier directement d'avoir envoyé une équipe pour l'éliminer, d'ailleurs exactement la même équipe que celle qui avait été envoyée pour Khashoggi. Est-ce que là, du côté de Washington, on pourrait se dire, c'en est trop, on ne peut plus soutenir ce prince héritier, ou de toute façon, quoi qu'il arrive, quels que soient ses agissements, on le soutiendra?
Je crois que la situation est quand même extrêmement périlleuse pour l'Arabie Saoudite, dont on a eu de cesse de clamer le fait qu'elle était au bord de la banqueroute, sur le point de collapser, comme on pourrait dire. De toute façon, je pense que la situation en l'état de la relation américano-saoudienne est évidemment fortement liée depuis 1945 au pacte du Quincy, et que du coup quelques éléments ou quelques tentatives, quelques affaires judiciaires à gauche à droite ne sont pas prêts à remettre en cause la puissance de la relation, et qui fait de l'Arabie Saoudite depuis 1945 avec Israël par la suite le principal allié de Washington dans la région. Donc contre mauvaise fortune, bon cœur, quels que soient, les remous, quelles que soient les erreurs de casting parfois, ou alors les politiques un petit peu impulsives et spontanées de la part du prince héritier, je ne crois pas que Washington soit prêt aujourd'hui à rayer de la carte Mohamed Ben Salman, parce que je pense qu'en plus, dans cette situation où des princes...
Dans l'hypothèse d'une alternance, c'est une arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden.
Je crois que Joe Biden ou Donald Trump, la relation restera de toute façon une relation réaliste entre les Américains et les Saoudiens, et ça sera la même chose en ce qui concerne Israël. Donc je crois que ce qui est évidemment extrêmement de l'intérêt de Washington, c'est d'avoir aussi un prince qui soit quelque peu un peu manipulable, parce qu'il n'est sans expérience, il est sans véritable carrière politique et militaire, et donc je le sens, en tout cas je l'avais toujours pressenti comme sous la coupe de Mohamed Ben Zayed, mais également de la Maison Blanche. Donc il a aussi évolué après la tentative d'assassinat dont il a été la victime en 2018, après toutes ces semaines où plus personne ne savait où Mohamed Ben Salman, qui trustait tous les écrans, on ne savait plus où il était, il avait disparu, il y avait eu des coups et des explosions à côté de son palais. Depuis, comme beaucoup de dirigeants d'ailleurs, il est devenu extrêmement parano, il est devenu extrêmement radical, et ça indirectement je pense que ça l'a renforcé dans sa stratégie de faire acte d'autorité et de vendre ce que j'appelle de la dissimulation par l'art, c'est-à-dire petit à petit être dans une situation où on va mener un certain nombre de politiques, guerre au Yémen et autres, et de l'autre côté, bah, accueillir le rallye Dakar, par exemple, ou vendre au nom de cette vision 2030, la fameuse ville futuriste Neom. Je crois que voilà, il y a toujours dans un certain nombre de ces monarchies une façade, acceptable, et puis la réalité derrière qui l'est parfois moins.
On va revenir sur les deux choses, c'est-à-dire le plan Vision 2030, mais aussi cette ville Neom, derrière laquelle il y a aussi un certain nombre de scandales. Fatia Désigné, vous vouliez réagir?
Oui, pour les États-Unis, bon, il faut bien faire la différence entre le soutien de la Maison-Blanche du président Trump et de son gendre Jared Kushner, et la problématique du Congrès, qui est quand même très différente. Et là, je ne suis pas tout à fait Sébastien. Non, je pense que réellement, en Arabie Saoudite, il y a de réelles craintes par rapport à justement des positions du Congrès très qui réclament quand même plus de transparence, de justice. Et je pense que justement l'alternance avec Biden, si jamais cela se faisait, le Congrès serait d'autant plus, apte à demander des comptes.
D'ailleurs, il y a des voix discordantes, y compris dans le camp républicain.
Républicain, absolument. Chez les sénateurs. Graham Lindsay a clairement dit que l'assassinat de Khashoggi était inacceptable et barbare.
Fatia Daziani, sur ce plan Vision 2030, pour évidemment réformer l'économie du pays, il faut de l'argent. Et évidemment, l'argent, il vient essentiellement de la manne pétrolière. Sauf que cette manne pétrolière, ces derniers temps, elle a un tout petit peu réduit. Quand on regarde les résultats, par exemple, d'Aramco, on voit qu'ils ont considérablement diminué, baissé ses bénéfices entre l'année dernière et cette année. Alors évidemment, il y a eu en plus le Covid, mais il y a aussi eu une mauvaise gestion de la part d'MBS de tout ce problème-là. Il y a eu ce désir d'aller voir la Russie pour essayer de leur demander de baisser les niveaux de production. Moscou a refusé de les baisser. En retour, MBS a choisi du coup d'ouvrir les voies et a provoquer un nouvel effondrement des prix. Bref, on s'y est pas très bien pris. Beaucoup moins d'argent.
Sauf que là, je suis pas d'accord avec vous. La guerre des prix, la réaction de Moscou et la surenchère d'MBS d'inonder le marché alors que justement ça coïncidait, manque de chance pour lui, avec la crise sanitaire, a forcé quand même Moscou à revenir sur la table des négociations avec un Trump qui, en plus de ça, pour la première fois, pour la première fois de l'histoire des États-Unis, les États-Unis viennent dans le débat sur la régulation des prix OPEP hors OPEP.
J'entends, sauf que les prix se sont effondrés et absolument, que du côté des États-Unis, il n'y a pas que le pétrole, alors que pour l'Arabie Saoudite, il y a à peu près que le pétrole pour s'en sortir. Et que si vous n'avez pas l'argent du pétrole, le plan de modernisation du pays, il tombe à l'eau, si je puis dire.
C'est clair, d'où la volonté de MBS de recréer l'économie politique de son pays, et d'où sa méthode radicale. Hein, et ce en quoi, je suis pas d'accord avec Sébastien, c'est, on n'a pas affaire qu'un espèce de fougueux qui joue à la Game Boy, hein, faut arrêter la caricature. C'est quand même quelqu'un qui a décidé sciemment de réformer son pays selon un procédé ultra radical, à savoir un dégagisme absolu de l'ancien régime. On l'a vu avec cette purge en novembre 2017, qui a consisté à s'en prendre aux membres de sa propre famille, à l'oligarchie marchande. Aujourd'hui, cette consolidation du pouvoir de MBS se fait, en plus de ça, en éjectant un certain nombre d'officiers de l'armée et de l'appareil sécuritaire, avec aujourd'hui un appareil sécuritaire un peu à l'égyptienne, avec ce qu'on appelle Amn al-Dawla, la sécurité d'État. C'est quelque chose de très nouveau, qui fait partie de l'arsenal, si vous voulez, étatique des États autoritaires du type Égypte, Irak sous Saddam. Donc on voit bien, avec cette verticalité nouvelle du pouvoir, on voit bien une approche systématique et radicale de recréer autour de sa personne, parce que jusqu'à présent la monarchie saoudienne était une monarchie horizontale qui se basait sur plusieurs fiefs princiers, et donc lui il a fait le vide autour de lui et il s'est mis au centre du dispositif en créant, même sur le plan économique, et là j'en reviens à la vision 2030, autour de son PIF, là, ce fameux fonds souverain qui est en train de racheter des tas de sociétés, des sociétés parapubliques saoudiennes comme Sabic, etc., pour se faire un trésor de guerre et donc investir dans cette vision 2030. Alors vous avez raison, bien sûr, ça coïncide malheureusement pour lui et le roi Salman avec un prix pétrolier qui a baissé depuis le second semestre 2014. D'où sa stratégie de dire maintenant on va nous sevrer en addiction de rente pétrolière. Simplement, c'est vrai que recréer à partir d'un État-providence rentier une économie productive, ça prend 25 ans, 30 ans minimum. Donc ce qu'il faut, qu'il crée un véritable secteur privé qui est en fait un secteur privé qui est à la botte de l'État. Parce qu'il n'y a pas de réel secteur privé en Arabie Saoudite. Ce sont des sous-contractants d'un État qui vit de 80% des revenus pétroliers. Vous avez raison.
Sébastien Boussois, peut-être répondre à Fatia Dazyani sur ce point. Elle dit, dans le système traditionnel saoudien, il y avait de la place pour des contre-pouvoirs, il y avait de la place pour la collégialité. Dans le système tribal, il y a tout ça. Sauf que MBS, précisément, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé la nature du pouvoir et qu'il l'a verticalisé. Sébastien Boussois.
Alors, il l'a non seulement effectivement verticalisé, mais je pense qu'il se sentait quand même au début relativement en danger, arrivé non pas de nulle part, mais en tout cas imposé tel qu'il l'avait été par la Maison Blanche. Il faut quand même rappeler que c'était pas le prince le plus riche de l'ensemble du pays, et que du coup la purge a aussi été un moyen de, je dirais, passez-moi l'expression, mais de racler les fonds de tiroir pour pouvoir permettre à la fois d'augmenter ses propres deniers personnels, mais également d'imaginer le développement de la vision 2030. Toute la question est de savoir dans les années à venir, au-delà effectivement de la situation du pétrole qui est extrêmement touchy, si je puis dire, comment permettre à l'Arabie Saoudite de devenir aussi une terre d'investissement de la part des investisseurs étrangers. Et ça, tout tourne autour de la question de l'image. Et ça, j'en suis beaucoup plus inquiet et sceptique au-delà du développement du secteur privé purement saoudien. Comment attirer petit à petit des investisseurs qui viennent du monde entier quand l'image de l'Arabie Saoudite reste celle-là, au-delà de l'affaire Khashoggi, de la guerre au Yémen, des maigres petits droits humains qui sont concédés aux femmes et que l'on porte en pinacle ou qu'on présente comme une sorte de révolution intérieure. Je crois que ça, c'est un élément, à mon avis, qui est véritablement à suivre. Et la situation même de Mohamed Ben Salman au moment de la question de la Covid est intéressante, puisqu'il a tout de même réussi à se présenter presque en sauveur d'un certain nombre d'entreprises qui étaient en difficulté à l'étranger, en utilisant ce pivot qu'est le fonds souverain saoudien d'environ 2000 milliards de dollars, et qui lui a permis d'acheter aussi des entreprises symboliques. Je pense par exemple à Live Nation Entertainment. Mohamed Ben Salman a racheté l'entreprise, la plus grande entreprise de spectacle vivant du monde, avec des chanteuses qui a priori ne devraient pas être forcément Rihanna et autres du grand goût des Saoudiens, de par leur vulgarité entre autres. Mais c'est intéressant de voir aussi comment les Saoudiens, en tout cas Mohamed Ben Salman, vient jouer sur le terrain occidental. Si les investisseurs occidentaux ne sont pas encore là, lui profite de la situation pour aller essayer de se racheter une conduite et d'essayer d'acheter des entreprises occidentales qui sont en difficulté.
Alors on a un petit souci de liaison qu'on va essayer de régler. Fatia Dazyani, il y a un projet aussi de Mohamed Ben Salman sur lequel je voudrais qu'on se penche un tout petit peu, qui est ce projet Neom, qui est cette ville ultramoderne, qui devrait émerger au nord-ouest du pays, à la frontière avec la Jordanie et l'Égypte, et dans lequel il y aurait un endroit spécifique qui échapperait d'ailleurs au droit traditionnel saoudien, et où, par exemple, on aurait le droit effectivement de boire de l'alcool. Sauf que récemment, le partenariat d'abord avec le Bureau européen a volé en éclats. Il y a eu des révélations sur des menaces d'expulsion forcée pesant sur une tribu, les Ouaytats, pardon. Et puis surtout, il y a eu cette opération militaire terrible qui visait un militant opposé à ce projet, qui avait diffusé une vidéo dans laquelle il disait qu'il défendrait sa maison jusqu'à la mort, et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque les services ont été envoyés et qu'ils l'ont tué dans sa maison. Alors j'ai regardé moi hier la vidéo pour voir un peu le contenu de ce qu'il disait, et il met en cause personnellement MBS. Peut-être est-ce ça justement qui n'a pas plu au pouvoir, mais on a le sentiment que derrière tout cela, parce que ça a provoqué une très forte indignation, c'était ces dernières semaines, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de réactions, qu'on a là un nouveau caillou dans la chaussure de Mohamed Ben Salman, et la question est jusqu'où cette affaire là, et peut-être bien d'autres, pourraient provoquer un mouvement de contestation en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui possible compte tenu des échecs à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du pays qui sont réels malgré tout?
Oui, elle est très intéressante, cette vidéo qui dure 20 minutes. Je trouve que c'est assez emblématique de justement des contradictions et des résistances qu'il y a justement à cette nouvelle rhétorique ultranationaliste, hypernationaliste qu'endosse Mohamed Ben Salman, hein, qui pour lui, voilà, la modernisation à tout craint, de manière très autoritaire, allant contre le mode de vie de villageois, comme cette petite localité dont j'ai oublié le nom, en tout cas qui est dans les terres de la future Neom, contredit complètement cette ambition justement de moderniser, d'afficher comme ça un royaume comme ça avec de nouvelles valeurs, etc., promues par le prince, alors que ce monsieur est issu de la tribu des Houaytat, donc c'est une grande tribu du nord-ouest saoudien et qui s'étend jusqu'en Jordanie, explique que pour lui être voilà, ça ne correspond pas du tout à son identité. Lui, pour lui, être d'abord, il se dit pas saoudien. Saoudien, faut pas oublier que c'est le nom d'une famille, Saoud. Ouais. Et ça pose un problème. Mais il ne se reconnaît pas du tout dans cette nouvelle Arabie saoudite qu'appelle de ses voeux Mohamed Ben Salman, parce que lui, c'est sa maison, c'est son village, c'est son clan, c'est sa tribu, c'est bien sûr l'islam. Donc, tout ça, effectivement, ce sont des choses qui s'agrègent et puis qui rendent très très compliqué l'entreprise de Mohamed Ben Salman, effectivement.
Et est-ce que est-ce qu'il y a un risque de contestation généralisée? La grande crainte, évidemment, d'MBS, c'est l'islam politique, c'est les frères musulmans.
Oui. Non, mais c'est sectorisé, parce que j'imagine pas, si vous voulez, un mouvement de contestation comme ça, populaire, dans tout le royaume. C'est très compliqué, parce que le royaume d'Arabie Saoudite, que les Saouds, d'ailleurs, veulent toujours faire apparaître comme uniforme et très uni, est extrêmement diversifié, divisé et fragmenté. Je veux dire, la tribu Houaytat, qui est dans le gouvernorat du Nord, Tabouk, n'a absolument rien à voir avec le Hijaz, ou avec le gouvernorat de Riyad, ou le Jizan, ou le Najran dans le Sud. Ce sont des régions extrêmement, extrêmement diversifiées, qui n'ont pas les mêmes populations, et qui n'ont même pas la même interprétation de l'islam.
Mais en même temps, démographiquement, c'est pas un poids considérable. La tribu dont on vient de parler, oui, c'est 20 000 personnes. Face de Riyad,
vous avez le chef de la tribu qui a prêté allégeance, bien sûr, au roi, au prince héritier, et qui, de toute façon, a dit non.
Voilà, donc l'unité de la nation, elle se construit à Riyad, et elle se construit dans le projet de modernisation d'MBS.
C'est exactement ce qui est entrepris. Il n'empêche que Riyad, c'est pas simple. C'est pas tout le royaume d'Arabie Saoudite. Ouais. Hein, donc c'est assez complet. C'est pour ça qu'il est en train aussi de tenter de promouvoir aussi une Arabie nouvelle avec cette nouvelle génération et de fragmenter le pays, si vous voulez, d'une manière générationnelle. Et c'est vrai que une grande partie de la jeune population, et ça, j'ai fait des enquêtes de terrain à Riyad et à Jeddah, mais aussi avec le livre de Mark Thompson sur Being a Young Saudi and Male, où lui, pendant 10 ans, a fait des études de terrain sur tout le royaume, où il constate effectivement cette fracture générationnelle qui adhère quand même très largement au projet de modernisation et d'ouverture entre guillemets, pas politique, mais en tout cas économique, libéralisation sociale, des mesurettes peut-être qui pour nous sont anecdotiques, mais pour les femmes, le droit de conduire, l'accès à toutes les professions aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'anecdotique. Hein. Pour une jeunesse qui n'avait absolument pas voix au chapitre jusqu'à présent, qui n'était pas un public considéré, lui justement est en train de consolider sa légitimité sur ce secteur de la population qui n'avait jusqu'à présent absolument pas son mot à dire. Ça veut pas dire qu'il l'a aujourd'hui, mais en tout cas, il fait le pari que voilà, 60% des moins de 30 ans adhère à son projet, et donc c'est pour ça qu'il a le vent en poupe pour essayer de contraindre d'autres populations qui n'adhèrent pas à ce projet à les forcer à l'adopter.
Oui, c'est vrai, il y a des choses qui avancent dans le bon sens. Alors, c'est jamais assez vite, mais effectivement, pour les femmes, le droit de conduire, la possibilité de voyager seule, la possibilité de créer sa propre entreprise, l'accès au stage, etc. etc.
Ça, c'est ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une vraie différence entre la perception de ce royaume, évidemment, et de ce prince héritier.
Qu'on en a,
évidemment,
et de l'intérieur.
Et quelqu'un... comme je le disais, qui a cette réputation de paria, est indéniable, hein. Et à l'intérieur, où c'est contrasté, bien sûr, il est tout le monde, beaucoup, beaucoup, même ceux qui le critiquent, considèrent qui le crédite de ce volontarisme et de cette volonté
progressisme
quand même
social et sociétal.
Mais bien entendu, la contrepartie, c'est verrouiller d'une manière extrême et radicale. L'expression.
On a retrouvé Sébastien Boussois. On va peut-être du coup jouer le jeu de la comparaison avec MBZ, dont je disais tout à l'heure dans mon introduction que c'était le mentor de MBS, même s'il y a des sujets sur lesquels on ne s'entend pas complètement. Et peut-être commencer avec l'actualité Sébastien Boussois et si un projet de modernisation en matière de politique extérieure, c'est bien cet accord passé entre les Émirats Arabes Unis et Israël, ce projet de normalisation des relations entre les deux pays, c'est vraiment on brise là un consensus du côté des Émirats, en tout cas consensus qui existait depuis au moins 2002 dans le monde arabe. Alors, il y avait eu évidemment l'Égypte et la Jordanie qui étaient les seuls pays de la région à avoir normalisé leurs relations avec Israël, mais depuis 2002, aucun pays. Et puis on s'était mis d'accord, pas de normalisation tant qu'on n'a pas réglé la question palestinienne. Comment est-ce que vous interprétez cet accord? Et puis... la question qui se pose, c'est est-ce que MBS, puisque visiblement le modèle est du côté des Émirats, pourrait suivre justement la voie et lui aussi décider de normaliser ses relations avec Israël? Sébastien Boussois.
Alors je crois qu'on est loin d'en être encore à ce stade-là, puisque les relations entre les Émirats et Israël ne datent pas de quelques mois. Il y avait évidemment aucune relation dite officielle, mais il y en avait des officieuses, et les premiers bureaux de commerce qui étaient installés entre Abu Dhabi et Tel Aviv remontent notamment à 1996. Donc il y a eu tout ce processus-là de construction de la relation entre les deux pays. Il y avait aussi une fascination claire de Mohammed Ben Zayed en tant que tout petit pays. On ne parle pas du tout de l'Arabie Saoudite et de ce processus de modernisation qui prendra un temps effectivement extrêmement long parce que c'est 33 millions d'habitants. Comparé à un petit pays comme les Émirats qui sont 10 millions et qui se retrouvent un peu dans la situation démographique similaire avec celle d'Israël. Il y a un rêve chez Mohammed Ben Zayed de la Startup Nation. Mohammed Ben Zayed qui a mis en place sa stratégie de diversification et de modernisation, qui est le président à la fois du fonds d'investissement et de la planification du développement du pays, rêve, je dirais, les yeux ouverts du modèle de développement à l'israélienne, et ça depuis des années. Et donc ces relations qui se sont mises en place, elles sont aujourd'hui une sorte de fait d'acter une réalité, comme quand Donald Trump a voulu acter une réalité de l'ambassade à Jérusalem dans leur perception de ce qu'était la capitale de l'État d'Israël. Les Émiratis, sur ce modèle américain bilatéral, ont voulu entériner une situation de fait et qui appelle à une plus grande coopération petit à petit, économique, mais également cybernétique, qui est déjà largement le cas. Aujourd'hui, les Émirats sont devenus presque la plateforme de hacking de la région et sur le modèle russe également, ils se sont largement inspirés et ont été formés par les Israéliens. Alors, pour la suite des opérations, je crois que les Émiratis, pas plus que d'autres pays arabes, n'ont cure de cette question palestinienne. Les Saoudiens sont dans la situation où, je dirais que le dernier vrai grand plan de paix intéressant qui puisse permettre d'avoir une paix juste et durable, comme on disait à l'époque, entre Israéliens et Palestiniens, était plutôt le plan de paix de la Ligue arabe de 2002, qui a été relégué au calende grec, après avec la seconde intifada, etc. Et donc du coup, les Saoudiens ont encore à la fois par le fait qu'ils soient gardiens des lieux saints de l'islam, mais également par ce plan de paix en lequel ils tenaient fortement et qui ne s'est pas réalisé, il garde une sorte de, je dirais presque pour reprendre une expression, de pudeur de gazelle, de passer à la vitesse supérieure avec les Israéliens. On a tendance à dire que ce serait plutôt les Bahreïnis qui seraient les prochains sur la liste, mais il est clair que Mohammed Ben Zayed a brisé le plafond de verre, puisqu'au-delà des paix froides avec la Jordanie, avec l'Égypte, qui sont aussi devenus de bons modèles américains de la lutte antiterroriste, Mohamed Bezayed s'est vendu aussi sur la place depuis des années comme ce modèle-là, le modèle dans la région du bon agent de la lutte antiterroriste qui est très à la mode depuis 2001 et pour lequel Israël reste l'exemple absolu en termes de souveraineté sur ce sujet-là dans la région.
Fathia Daziani, ça vous paraît possible ? Une normalisation des relations avec Israël de la part d'MBS qui avait dit dans une déclaration, je crois que c'était à Davos, il avait dit qu'il n'était pas opposé à la reconnaissance de l'État hébreu. Ce qui est déjà une rupture.
Oui et non, parce que le plan de paix arabe dont parlait Sébastien tout à l'heure est une initiative du roi Abdallah. C'était l'initiative de paix du roi Abdallah qui avait été prise en février 2002 à la suite des attentats de septembre 2001 pour un petit peu revenir sur la scène, redorer son blason et redevenir un acteur significatif pour les Américains dans la région. Le roi Abdallah était prêt à dire non seulement que l'Arabie Saoudite reconnaissait Israël contre la terre de 1967, hein, c'est ça le principe, mais que tous les États arabes le feraient. D'où le plan de paix arabe de mars 2002 qui a été endossé au sommet de la Ligue arabe à Beyrouth. Donc de ce point de vue-là, et les Saoudiens aujourd'hui, notamment par la voix du roi Salman, restent extrêmement fermes là-dessus. C'est sur cette base-là que doit se faire une paix avec Israël. Et certainement pas une normalisation de relations bilatérales comme les Émirats arabes unis l'ont, comme l'a dit Sébastien, effectivement, ont finalement officialisé une relation qui était déjà très dense. Alors peut-être que la start-up nation israélienne fait rêver les EAU, mais c'est surtout un accord, pour moi, sécuritaire. Parce que il est clair que tout ce qui est cyber, sécurité, etc., est assuré par des sociétés israéliennes aux Émirats Arabes Unis.
Mais donc ça veut dire que Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zayef ont quand même un différend majeur.
Non, mais il y a des si vous voulez, les intérêts ne convergent pas toujours totalement. Ça a été le cas sur la guerre au Yémen. Les Émirats Arabes Unis ne mènent pas la même guerre au Yémen que les Saoudiens contre les Houthis. Hein, on voit bien, les Émirats encouragent au séparatisme et ont mis tout leur denier sur le Yémen du Sud.
Alors que tout ce petit monde est parti ensemble, main dans la main, en avril 2015, en guerre, oui, coalition menée par l'Arabie Saoudite à laquelle les Émirats participent.
Ils ont intérêt à ce que leur désaccord ne soit pas rendu trop public. Alors ils discutent entre eux, bien sûr qu'il y a des différends. Il y a même encore un différend à la frontière entre les Émirats et l'Arabie Saoudite qui n'a toujours pas été réglé. Donc, tout ce qui est différent est totalement masqué. Ils en parlent certainement bilatéral entre eux, mais les Émirats arabes unis, je dirais que plus que l'Arabie saoudite, ont intérêt à préserver cet axe fort et cette alliance saoudo-émirati. Parce que les Émirats ont quand même besoin de la profondeur stratégique de l'Arabie saoudite. Ils n'auraient jamais pu faire tout ce qu'ils ont fait sur les ports du Yémen du Sud et les ports aussi dans la Corne de l'Afrique sans une très bonne entente avec l'Arabie Saoudite. Et donc, en fait, c'est une excellente entente entre MBS et MBZ, mais il est évident qu'il y a certains intérêts qui ne convergent pas forcément. Sur Israël, il est évident que c'est explosif pour l'Arabie Saoudite si MBS décidait demain de normaliser. Hein. Déjà, ces quelques phrases sur la détente avec Israël. Alors c'est vrai que quand il dit Israël n'est pas une menace existentielle pour l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran qui en est une, c'est sur ce point-là que les intérêts convergent entre l'Arabie et Israël. Et MBZ qui s'est récemment rapproché de l'Iran, très clairement cet accord avec Israël, c'est pour se doter de la technologie industrielle israélienne pour contrer les cyberattaques de l'Iran. C'est clair. Même si aujourd'hui, le grand ennemi affiché, ce sont les frères musulmans, c'est la Turquie, c'est l'axe qatar-turc qui peuvent eux aussi mener des attaques cyber. Donc c'est vraiment sur ce plan-là que MBZ a fait un accord bilatéral qui n'a rien à voir avec le processus de paix.
On est avec vous, Fatia Daziani, et vous, Sébastien Boussois, dans cette série consacrée aux monarchies, les monarchies au pied du mur, de l'Arabie Saoudite aux Émirats, les limites d'une modernisation à marche forcée. On va parler du voisin qatari. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
C'est un long processus. On ne peut pas dire que tout va changer en un an. Toutes les personnes qui travaillent dans le comité s'intéressent aux conditions des travailleurs. Ils travaillent, travaillent et travaillent sans cesse. On veut que les choses avancent rapidement. Mais parfois, ça ne se passe pas comme ça. C'est la réalité du monde. On doit aussi vivre avec la pression internationale et les critiques. Ça fait un an, ça fait deux ans, rien n'a été fait. Vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait, mais nous n'avons pas de baguette magique pour rendre tout magnifique d'un coup.
Les choses changent, mais ça prend du temps, disait Nasser Al-Khater, secrétaire général du Comité suprême du Qatar en 2016, alors que son pays était sous le feu des projecteurs à propos des conditions de travail des ouvriers du chantier de la Coupe du Monde 2022. Et de fait, eh bien, les choses changent. Fin août, le Qatar a annoncé une réforme de son droit du travail avec la promulgation de deux nouvelles lois, l'une permettant d'abolir le système de kafala pour les travailleurs migrants, l'autre instaurant un salaire minimum, 1000 rials, c'est-à-dire à peu près 230 euros. Alors comment ces avancées ont été obtenues? Quelle application concrète sur le terrain? Et puis plus généralement, comment l'organisation d'un tel événement participe aussi d'une stratégie plus globale d'ouverture, de modernisation du Qatar? Parce que du côté du Qatar aussi, on a ce projet de moderniser. Bonjour Olivier Dallage.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef à RFI, spécialiste du Moyen-Orient. Vous aviez écrit il y a quelque temps un ouvrage sur le Qatar, Les nouveaux maîtres du jeu. Votre regard, Olivier Dallage, sur cette réforme du droit du travail, c'est du pur affichage ou c'est une réelle avancée sociale?
C'est de l'affichage obligatoire. C'est une vraie avancée, comme il était dit, une avancée très lente. Parce qu'en réalité, les mesures annoncées ne sont pas nouvelles. Ça fait plusieurs années que le Qatar s'est engagé à abroger le système dit de la kafala, c'est-à-dire le fait d'avoir un sponsor local pour pouvoir travailler sur place, un garant si vous voulez, et qui a donné lieu à beaucoup d'abus. C'est d'ailleurs pas propre au Qatar, hein. Tous les pays du Golfe font la même chose. Le fait est que quand ils ont eu l'attribution de la Coupe du Monde, immédiatement tous les projecteurs se sont dirigés vers le Qatar et ça les a mis un petit peu sur la sellette. Et les chantiers pour la construction des infrastructures ont donné lieu à tellement d'abus, on parle de plusieurs milliers de morts sur les chantiers, que forcément les organisations syndicales mondiales, le Bureau international du travail, les organisations de défense des droits de l'homme ont commencé à mettre la pression. Et le Qatar a été obligé de rendre des comptes progressivement, d'annoncer des réformes. Ces réformes-là ont été annoncées, mais n'ont pas été mises en œuvre. Donc oui, il y a des progrès, mais des progrès sous la contrainte. Et en même temps, le Qatar n'a pas véritablement le choix.
Reste à voir si derrière, il y aura effectivement des systèmes de contrôle pour voir si tout cela est bien appliqué. Mais cette pression, elle est là, c'est évidente. Mais est-ce que c'est seulement cette pression des associations, des ONG et de la communauté internationale? Ou est-ce qu'il y a aussi quand même un désir réel, sincère de réformer le pays?
Il y a une volonté d'affichage qui est réelle. Et donc, forcément, quand on annonce des réformes vertueuses, on est quand même si on n'en a pas vraiment envie, ou si on est velléitaire, on a des obligations. Parce que si on ne le fait pas, eh ben, on est mis face à ces contradictions. Or, toute la stratégie du Qatar depuis 1995, c'est-à-dire depuis que Cheikh Hamad a renversé son père et a changé radicalement la politique du Qatar, consiste à jouer du soft power, d'être bien vu du monde entier pour garantir la sécurité du Qatar face à ses voisins, et notamment l'Arabie Saoudite. Mais ça n'est possible que si, effectivement, les réformes ont un certain degré de réalité.
Et est-ce que le boycott dont fait l'objet le Qatar depuis 2017, depuis juin 2017 de la part de l'Arabie Saoudite, des Émirats et du Bahreïn, accentue encore justement cette posture du bon élève? On veut en faire encore davantage pour bien montrer à la communauté internationale que le bon chemin, c'est au Qatar qu'il est pris?
Je dirais que les deux chemins sont parallèles, mais d'une certaine manière, ce boycott, ce blocus a été une bénédiction pour le Qatar. Bon, ça n'était évidemment pas le cas quand ça s'est produit, mais ils avaient heureusement pour eux d'énormes réserves de change qui ont permis de tenir le coup. Et en s'abstenant de prendre des mesures de représailles, Ils ont été en quelque sorte, aux yeux du monde, la victime, même pour les pays qui n'avaient pas nécessairement une grande estime pour le gouvernement du Qatar. Et l'acharnement dont les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite et Bahreïn ont fait preuve contre le Qatar leur a rendu service en quelque sorte. Mmh. Et donc oui, tout ceci a plutôt joué en faveur du Qatar.
Et est-ce qu'aujourd'hui, du côté des Qataris, on est ouvert à la discussion ? Est-ce que, alors, ça n'a pas l'air d'être franchement la priorité dans le calendrier, mais est-ce que Saoudiens et Qataris pourraient finalement se mettre autour de la table et trouver un accord pour sortir de cette crise politique ?
Alors, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. On a pu croire à au moins deux reprises, peut-être même trois, qu'un semblant de dégel commençait. Et puis, quelques déclarations plus tard, on se rend compte qu'il n'en est rien. Encore tout récemment, les Émirats Arabes Unis ont tenu des propos extrêmement sévères pour le Qatar. Le Qatar qui vient d'ailleurs d'obtenir gain de cause sur le blocage de l'espace aérien qui l'entoure auprès de la Cour internationale de justice. Donc, cette histoire est apparemment parti pour durer longtemps.
Mmh. Vous restez avec nous, Fatia Daziani. Comment est-ce qu'on voit ce mouvement de modernisation du Qatar chez les voisins ? Ça agace ? Ça impressionne ? Qu'est-ce qu'on en pense ?
Je parle
de depuis Riyad essentiellement.
Hein. Non, mais depuis Riyad, si vous voulez, non. Riyad, c'est le grand voisin et qui regarde toujours avec beaucoup de mépris cette petite crotte. Tout micro-émirat, rien n'est plus similaire et semblable à l'Arabie Saoudite que le Qatar. C'est un émirat wahhabite, ce sont les mêmes tribus, ce sont les mêmes populations, ce sont les mêmes familles. D'où la tragédie de cette crise quand même, parce qu'il y a une tragédie humaine dans ces crises. Il y a des familles qui ont été séparées, etc. Mais le point dur de la crise et de ce boycott, il est beaucoup plus à regarder vers Abu Dhabi et la rivalité Abu Dhabi-Qatar.
Ouais.
Et là, effectivement, Abu Dhabi doit être plus qu'agacé avec cette dernière mesure qui est pas que de l'affichage. C'est une mesure très importante parce qu'elle s'est faite aussi contre le secteur privé et les riches familles qataries qui n'avaient absolument aucun intérêt leurs employés leur échappent en matière de tutelle.
Si oui, et puis par ailleurs, ce système de kefala, s'il est véritablement aboli, il risque d'avoir des conséquences économiques réelles en réalité.
Oui, et puis il y aura un effet certainement boule de neige. Donc là, du coup, le Qatar, oui, bien sûr, doit plus qu'agacer, c'est clair.
Sébastien Boussois, réaction.
Mais je crois que ce qui est intéressant, effectivement, c'est que le Qatar est revenu de loin. Et c'est surtout inscrit dans la logique et l'événement qui va arriver en 2022 et la Coupe du Monde. Je crois qu'un pays comme ça, qui est sous le feu des projecteurs en permanence, a priori, pourrait difficilement cacher quoi que ce soit. Donc quand le Bureau international du travail décide, avec le gouvernement qatari, de venir mettre un peu d'ordre, de mettre en place une forme d'embryon du droit du travail dans une région qui, je le rappelle, n'en a jamais fait une priorité, je crois qu'on peut au moins saluer cet élément-là de vouloir essayer de mettre en place une forme de ce droit-là, de populations qui viennent de très loin, qui viennent d'Inde, qui viennent du Népal, qui viennent du Pakistan et d'ailleurs, dans des services aussi, pas uniquement les ouvriers, dans le service à la personne. Je rappelle qu'en Israël, par exemple, la situation n'est pas forcément parfois plus glorieuse pour les personnes qui viennent de Philippines et d'Indonésie. Donc, il y a une forme de volonté de régulation face à un événement qui, de toute façon, les met sous le feu des projecteurs directement. Donc, je crois que ensuite la rivalité entre les deux pays, elle est effectivement depuis 1971 clairement entre ces deux micro-États qui se sont inscrits dans un instinct de survie, dans une logique péninsulaire, dans un réflexe de protection, avec des inquiétudes à un moment ou pas d'être envahi, comme Olivier Dallage l'a rappelé, le blocus depuis 2017 et ces rumeurs qui ont circulé à un moment sur une invasion potentielle du Qatar.
Mais on pourra aussi évoquer le Liban. Hein. Le kefala est aussi beaucoup utilisé. On a parlé à ce même micro il y a quelques temps de la situation de ces femmes domestiques qui se retrouvent sans rien, complètement bloquées dans le pays.
À cause de l'abolition du kefala aussi.
Oui, alors là c'est pareil. Reste à voir si ça sera appliqué une fois qu'on sera sorti de la crise, même si elle risque de durer. Mais Olivier Dallage, quand on regarde un peu les choses, qu'on compare le Qatar avec ses voisins, On avance sur le droit du travail. Bon, la liberté de la presse est un peu plus aboutie. Alors, c'est pas parfait, mais on a quand même Al Jazeera, hein, qui s'est régulièrement placé en défenseur des révoltes arabes, on s'en souvient. On accueille des dissidents de la région. Bref, c'est un pays relativement ouvert et relativement moderne. Mais pour autant, faut pas oublier qu'on a quand même un régime qui est extrêmement rigide. Cette modernisation, elle se fait elle aussi avec un certain nombre de lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, hein, Olivier Dallage.
Alors le mot important que vous avez employé, c'est relativement. Quand Cheikh Ahmad a fait son coup d'État en 95, il a dans la foulée aboli le ministère de l'information et la censure. Mais donc c'était une bonne chose, sauf que ça ne veut pas dire qu'on pouvait écrire n'importe quoi. Donc au lieu d'avoir un bureau de la censure qui dit ça, vous pouvez écrire ça, vous pouvez pas l'écrire, les journalistes et les écrivains étaient réduits à se demander ce qui était autorisé et ce qui l'était pas, et ils le découvraient au fur et à mesure qu'ils avançaient, donc beaucoup d'autocensure. Même Al Jazeera, qui a connu son heure de gloire après sa création en 96, et jusque en effet 2011, a beaucoup perdu de son aura parce que c'était vraiment une chaîne qui où pratiquement tous les points de vue s'exprimaient, sauf en ce qui concerne le Qatar, mais c'est devenu un organe militant proche des frères musulmans, et donc ils ont beaucoup perdu en crédibilité et en audience. Donc oui, il y avait un côté militant pour la démocratie et la liberté d'expression, mais il ne faut pas oublier que cette démocratie a été octroyée d'en haut et jamais d'en bas.
ولا شي يساوي انت الهوى عشقك والاشواق اساسك كل المعاني الصادقة فيني تنادي.
Merci beaucoup à vous, Olivier Dallage, d'avoir été avec nous par téléphone ce matin. Je rappelle que vous avez écrit notamment Qatar, les nouveaux maîtres du jeu, qui était paru chez Domopolis. Un grand merci également à Sébastien Boussois, qui est avec nous depuis Bruxelles, auteur, vous, de Pays du Golfe, les dessous d'une crise mondiale. C'était chez Armand Collin. Et Fatia Dazieni, un grand merci également d'avoir été avec nous à Paris, ici en studio. Je rappelle, vous, que vous venez de rééditer, c'était vraiment il y a quelques jours, hein, le 20 août, je crois, l'Arabie Saoudite en sans question, chez Talendier, évidemment une référence qu'on met aussi sur la page de Culture Monde. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table, mais d'abord, c'est Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Brice qui nous emmène cette semaine aux États-Unis. On a le sentiment, Brice, que les catastrophes s'enchaînent depuis quelque temps. Est-ce la loi des séries ?
Les attentats contre les tours du World Trade Center ont causé la mort de 3000 personnes. Le tsunami de décembre 2004, celle de 230 000 personnes. La crise des subprimes en 2008 a entraîné des milliers de faillites et de licenciements à travers le monde. Quant au Covid-19, s'il a tué directement pour l'instant 895 000 personnes à travers le monde, ses conséquences économiques et sociales sont loin de nous être encore toutes connues. Mais à coup sûr, des faillites en chaîne, beaucoup de chômage et une récession mondiale. Les catastrophes se sont succédées à un tel rythme depuis le début du XXIe siècle qu'on essaie davantage de les anticiper afin de mieux y faire face. On affronte plus aisément les conséquences d'une épreuve lorsqu'on l'a escomptée. Il faut, a dit Jacques Attali, prévoir le pire pour qu'il n'arrive pas. Alors le magazine Books consacre justement le dossier central de son numéro de rentrée au thème « Risque et à l'anticipation des catastrophes ». Et sa rédaction a eu l'idée astucieuse d'ouvrir ce dossier avec un livre paru il y a 12 ans qui s'appelait « Global Catastrophes and Trends, the next 50 years ». Il était dû à Václav Smil. Quelles sont donc les catastrophes que cet éminent futurologue tchéco-américain qui lit une quinzaine de langues prévoyait pour les 50 prochaines années, en 2008 donc? Et question sous-jacente, peut-on faire confiance aux futurologues pour anticiper les pires des scénarios? Václav Smil définit les catastrophes comme des événements qui se produisent en l'espace de quelques minutes ou de quelques mois, mais qui ont des répercussions majeures à l'échelle de la planète, d'un continent ou d'une région entière du monde. Il peut s'agir de désastres naturels, comme la collision avec la Terre d'un astéroïde d'une certaine dimension au mauvais endroit, tel celui qui a éliminé les dinosaures il y a 66 millions d'années. D'une éruption volcanique massive ou d'un glissement de terrain sous-marin provoquant donc un tsunami? Mais Smil, comme beaucoup d'autres, estimait très élevée la probabilité d'une nouvelle épidémie de grippe meurtrière, et là, il avait raison. Sur le plan international, il voyait l'hégémonie américaine, je cite, « entrer dans une phase crépusculaire » et la Chine monter en puissance. Vous me direz, il n'y avait pas besoin là de boule de cristal. Mais il relevait également que l'absence d'un leadership mondial allait provoquer une situation d'instabilité qui, écrivait-il, ressemblerait au monde méditerranéen après la chute de l'Empire romain, à savoir un morcellement durable et chaotique préjudiciable au progrès économique. La prise de conscience des dépendances et des fragilités créées par l'étalement des chaînes de valeur est peut-être en train de provoquer aujourd'hui une telle fragmentation. Alors Books s'amuse aussi à confronter certaines prédictions à politiques récentes avec la réalité. Et bien sûr, le cas le plus emblématique est sans doute celui du fameux pic pétrolier, au niveau maximal de l'exploitation pétrolière avant que la baisse des réserves se traduise par une baisse de la production et donc des hausses de prix permanentes. Le géophysicien King Hubbert, en 1956, l'avait situé, ce pic, en 1970. Et depuis, comme on sait, la date n'a cessé d'être reportée et il est probable, et d'ailleurs souhaitable, que l'humanité se soit tournée vers d'autres sources d'énergie avant que le fameux pic n'ait été atteint.
Et puis il y a un autre prospectiviste célèbre qui fait son bilan de ses propres anticipations, c'est Nouriel Roubini.
Oui, Roubini, on s'en souvient, c'est l'inventeur des fameux signes noirs, ces événements improbables et pourtant porteurs de terribles conséquences. Sur le site Project Syndicate, il fait le point sur les signes blancs, les événements probables, eux, tels qu'il les avait lui-même exposés au début de cette année. Et il avait prédit, par exemple, que l'épidémie partie de Wuhan se répandrait dans le monde entier. Là, il avait raison. Il prévoyait aussi une escalade militaire entre Washington et Téhéran. Et là, il avait tort. Il l'explique. Les Iraniens, dit-il, jouent la carte de l'apaisement dans l'espoir que Trump soit battu et que Joe Biden rejoigne l'accord sur le nucléaire. Mais il avertit Roubini, que les tensions en mer de Chine orientale et méridionale pourraient fort bien se traduire très prochainement en affrontements armés entre la Chine et les États-Unis. Roubini avait averti que le cyberespace serait de son côté le nouveau terrain d'affrontement entre les puissances. Il pense que comme en 2016, les puissances dites révisionnistes qui défient les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, interfèrent dans la campagne électorale américaine pour, je cite, « aggraver les divisions partisanes ». Le pays est en proie à une polarisation qui pourrait tourner à l'agitation civile, en particulier si le résultat des élections s'annonce serré. Enfin, les risques environnementaux sont de plus en plus préoccupants. La désertification de l'Afrique de l'Est a créé les conditions d'une invasion de sauterelles qui détruisent les cultures. La fonte du permafrost en Sibérie va non seulement aggraver la pollution de l'air, mais faire ressurgir de dangereux virus emprisonnés dans les glaces depuis des millénaires. On peut toujours compter sur une bonne catastrophe.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table. Quant à vous, on vous retrouve demain, cher Brice.